Ce cours est dédié pour la version de l'âme de Netanael Menachem Ben Aaron et Rivka Hardy Zichrono Livracha. Un pauvre jeune homme qui est décédé à l'âge de 27 ans, il allait se marier. Que Dieu ait pitié de son âme et de sa famille. Amen. Donc la question de Dan David.
Comment réussir à palper le plus possible Hachem, soit au niveau de la Tfila et au niveau de la vie.
Comment arriver à palper Hachem, donc ressentir la présence d'Hachem le plus possible dans la prière et en général dans la vie. Alors le Misat Yesharim en parle, donc Rabbi Chaim Lutzato, l'auteur du Misat Yesharim, un des grands rabbins des derniers siècles, en parle dans son livre. Il en parle et pour la prière et pour une des dernières, donc ce livre Misat Yesharim, c'est une échelle, d'accord, une échelle qui part depuis le niveau basique pour arriver à Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, qui amène aussi, après Tchiat HaMetim, la possibilité aussi de ressusciter les morts. D'accord ? Comme on a vu des grands, comme Yehoshua Hanavi, comme Elisha, d'accord, qui ont ressuscité. Donc on peut arriver à des niveaux très très hauts. Bon, je ne sais pas si c'est tout à fait actuel pour nous de ressusciter des morts, mais néanmoins, il y a une échelle. Comment arriver à se rapprocher beaucoup de Dieu ? Et la dernière mida, le dernier échelon dont il parle, s'appelle la Kedusha, la sainteté. Celle qui est juste avant, c'est Yiratret. Yiratret, c'est la crainte du péché. Mais une crainte, c'est-à-dire une conscience extraordinaire de la présence de Dieu parmi nous sans cesse. C'est le dernier niveau, c'est un des derniers niveaux, c'est l'avant-dernier niveau, pour être précis. D'accord ? C'est un très très haut niveau. Pourquoi ? Parce que du point de vue physique, il est extrêmement difficile de sentir, de palper la présence de Dieu. Parce que Dieu est justement tout ce qui est impalpable, tout ce qui n'est pas physique. Et nous, bien que lorsqu'on est né, on est encore très branché à là-haut, mais assez rapidement, on s'habitue à notre corps. Remarquerez qu'un enfant, dans son berceau, il a deux, trois mois, il reconnaît sa mère. Il ne reconnaît pas ses mains. Il voit des objets qui passent devant lui comme ça. Des fois, il se crispe et il se met à hurler. Et étant, il sent que quelque chose lui fait mal, il se crispe encore plus, c'est pas ce qui se passe, d'accord ? Il y a un élément étranger qui vient qui le pince, c'est lui-même. Il sait pas que ses mains, c'est lui. Ça lui prend du temps. Et un beau jour, tu le vois dans son lit, comme ça, il voit une chose extraordinaire, que quand il veut bouger, ça bouge. C'est extraordinaire. Nous, on est tellement habitués à notre corps qu'on est convaincu que c'est nous. Et combien il faut faire de coups pour que la personne comprenne que c'est cannabis, un costard, c'est tout. C'est pas toi. C'est une machine qui t'obéit. C'est comme si tu es en voiture, puis c'est toi la voiture. Tu mets les gaz, tu freines, tout ça, mais en plus que cela, maintenant on a mis des senseurs. Tu sens la chaussée dans ton esprit. La chaussée est chaude. Tu sens que ça manque d'huile. Tu sens la voiture dans ton cerveau. Ce que Dieu a fait, il nous a donné une voiture. Attends, on a les senseurs de la voiture, on sent, attends, ça manque d'huile, j'ai faim, d'accord, ça manque d'eau, j'ai soif, les pneus, faut changer, j'ai mal aux pieds, d'accord, le pot d'échappement, il faut se retenir quand on est en public, enfin, des tas de, d'accord, tu ressens tout ça dans ton cerveau, comme une voiture. Mais un beau jour, le type, il sort de la voiture, et puis il y a la voiture, et puis il y a lui. Il y a deux choses. Et nous sommes tellement habitués. Bien qu'au début de la vie, on n'est pas habitué à ce corps, le bébé, il ne sait même pas que c'est lui, mais après, il s'habitue tellement à ce corps qu'il nous est extrêmement dur de comprendre qu'il y a autre chose et de le palper. La seule chose qui permet d'arriver à cette, je ne vais pas dire palper, mais à cette conscience, c'est beaucoup penser. Beaucoup penser à Dieu, beaucoup penser à la Torah. La Torah sanctifie énormément. Et imaginer sans cesse que Dieu est devant nous. Et quand on lui parle vraiment, avant de lui parler, avant de faire la prière, s'imaginer sa grandeur. Je lui ai parlé un peu l'autre jour. Je vais répéter ça ici. Le monde physique, au niveau de la mystique juive, c'est le plus petit des mondes. Il est minuscule. Hein, rien du tout. Et néanmoins, aucun être humain ne peut l'imaginer tellement il est grand. On connaît son chiffre. On sait que c'est environ 15 milliards d'années-lumière. D'accord, la lumière, elle parcourt 300 000 km à la seconde. la distance qu'il y a d'ici jusqu'à la Lune. Si quelqu'un maintenant allume une petite ampoule et fait un petit signe lumineux sur la Lune, et moi je le vois au télescope, je le verrai une seconde après qu'il ait fait cela en vrai. Le Soleil se trouve à 8 minutes lumière de notre Terre. Et si maintenant on est en plein jour, quelqu'un éteint le Soleil, pendant 8 minutes encore j'aurai de la lumière. Il faut une annonce sur Internet, dans 8 minutes, c'est la fin du monde. D'accord ? Faites bronzer vite les dernières secondes qui vous restent, il n'y aura plus de soleil bientôt. Pendant, bien qu'en temps réel, le soleil n'existe plus, pendant 8 minutes encore, parce que la lumière, elle, ça lui prend un temps très rapide, 300 000 km à la seconde. Donc, le monde est en expansion à cette vitesse. Et nous savons que le monde fait 15 milliards d'années lumière. Ça veut dire que tu vas compter la distance qui prend la lumière, un voyage de 15 milliards d'années pour faire cette distance. Une seconde, c'est 300 000 km. Une heure, combien ça fait? Il faut faire fois 3600. Prends un jour, prends une année, etc. C'est inimaginable. Et comme j'ai dit, tu regardes le soleil, tu regardes le ciel, tu vois une étoile, tu penses que c'est une étoile. C'est très dernièrement, c'est moins d'un siècle qu'on a découvert la présence de galaxies. C'est-à-dire que le point que tu vois, c'est pas un point, c'est une galaxie. Une galaxie fait entre 10 et 100 milliards d'étoiles. 10 et 100 milliards d'étoiles. Que lorsque tu es sur une étoile galaxie, tu vois la première étoile se trouve extrêmement éloignée. Je crois que la première galaxie la plus proche de notre galaxie à nous, elle est environ 1 million et demi d'années-lumière. C'est un amas de 100 milliards d'étoiles, énormes, gigantesques, 100 milliards d'étoiles, gigantesques, qu'on voit comme un point. Et la plus proche, se trouve, on peut la voir, les autres sont tellement éloignées. Donc, maintenant, prends-toi là, par rapport à ça, ça fait peur. Tu t'imagines maintenant, tellement c'est grand. Et t'es un petit rien du tout, de rien. Tu t'adresses maintenant à Hachem. Que Hachem, c'est des millions de milliards, de milliards, de milliards, etc., des années-lumière, dire de milliards, beaucoup plus grand, parce qu'il n'a pas de limite. Et tu t'adresses à lui. Pense aussi maintenant à quel point ta vie est éphémère. Nous, on est habitués, je suis là. Et Dieu, chaque seconde, me redonne la vie. Tous les matins, chaque seconde, me redonne la vie sans cesse. Tu m'as habitué que, Dieu, je peux m'arranger sans toi. Hein. Il y en a qui sont pas contents de Dieu, il y en a qui sont furieux contre Dieu, il y en a qui ne croient pas en Dieu, d'accord. Et Dieu, chaque seconde, donne. Donc on a tendance à croire qu'on est éternel. On est là, on est bien. Va faire un tour à l'hôpital. Pas toi, Chassé Shalom. Allez faire un tour là, à l'hôpital. Ouvrez sur Internet n'importe quelle maladie, tu prends, tu commences à lire, il y a des variétés comme ci, des variétés comme ça, tu dis, dis donc, à côté de quoi je passe, Baruch HaShem, je suis en bonne santé. C'est pour une maladie, toutes les variétés, après tu prends, il y a des centaines, milliers de variétés de maladies. On est très, 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 très faible, on n'est rien. Qui te dit que tu es vivant demain? On ne sait rien d'autre. Quelqu'un, il est là, c'est personne pour qui on fait maintenant ce chiot-là. Il était là, il réussissait bien la vie, donc ne coupe plus rien. Qu'est-ce que c'est? Ma enosh kitizkerenu. Comme ça, on dit les anges à Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'être humain que tu t'en rappelles? Qu'est-ce qu'il est? Quelle valeur on a? On se croit. Et ce « on se croit » tellement invulnérable, d'accord? C'est ça qui nous empêche de sentir Dieu. Mais si on sentait qu'on est sans cesse en vie grâce à Dieu, non, on s'aplatirait dans la prière. À plat, sans cesse, on ne pourrait pas bouger. Plus quelqu'un est petit, moins il sent Dieu. Un escargot, il ne sent pas Dieu. Un homme proche du saint, il ne sent pas Dieu non plus. D'accord? Plus quelqu'un grandit, il commence à sentir Dieu. Les anges, il est écrit que dans les mondes spirituels, il y a un fleuve de feu. Nahar Dinor. Un fleuve. Tu as vu des fleuves de lave déjà? On a vu ça. Ah, t'as un Vésuve, un Etna, un volcan qui est faux, t'as terrible. Il y a un fleuve de feu, de lave comme ça, terrible, spirituel, d'une chaleur intense. C'est pas physique, c'est métaphysique. De quoi il vient ? Chazal disent, c'est la transpiration, la sueur des anges élevés face à la présence de Dieu. Ils sont tellement en état de crainte terrible. Tu vas voir maintenant un grand directeur de boîte, un monsieur de train, je sais pas. Tu rentres chez un grand rave d'Israël. Tu rentres pas comme au bistrot, d'accord ? Tu as une crainte. Face à Dieu, les anges, ils voient Dieu. La sueur qui sort, tellement ils sont en tension, un fleuve de feu. Ça, c'est la vraie réalité. Nous, on est aveugle. On doit comprendre qu'on est aveugle et travailler là-dessus. Donc, si on travaille, on travaille. Au bout d'un moment, la conscience, elle arrive. Il y a un principe super basique. Sans ça, la vie n'a pas de sens. Moar shalit à la lèvre. L'esprit, il peut maîtriser le cœur. Maintenant, c'est marqué que les réchaïm, les mécréants, les impies, ils sont dans les mains de leur cœur. Et tzadikim, c'est marqué que leur cœur est dans leurs mains. Moi, j'ai ici un cœur, c'est un cœur. Des pulsions, l'imagination, des envies, des peurs, des sentiments mauvais, bons, d'accord. Ça va dans tous les sens. Un jour, tu es de bonne humeur, un jour, tu es de mauvaise humeur, un jour, tu es jaloux, un jour, tu es coléreux, un jour, tu es gentil, un jour, tu es... Ton cœur. Des fois, tu as envie. Eh bien, il y a des gens qui font ce qu'ils ont envie toute la journée. Ils suivent leur cœur. C'est des nuls, des rien. C'est des miskénimes, des pauvres gens, parce que leur cœur, très souvent, leur pousse à faire des choses qui sont contraires au désir de Dieu. Ils deviennent invivables. Coléreux, mesquins, orgueilleux, durs, cruels, tout ce que tu veux. Il y en a qui sont des fois très miséricordieux, mais dans des trucs tordus, d'accord ? Au lieu d'aller aider les hommes, ils vont aller aider les phoques. C'est bien, j'ai rien contre les phoques, mais l'investissement humain et matériel que tu fais pour les phoques, mets-le pour aider les êtres humains. Donc, ils ont un sentiment de miséricorde, mais mal guidé. Un tzaddik, son cœur est dans son est maîtrisé par lui. Lui maîtrise son cœur, donc il a un cœur. Il sait quand l'ouvrir vers la miséricorde, il sait quand il faut être cruel maintenant et pas donner. Il faut savoir qui, quoi, comment. C'est géré par l'esprit. De même aussi dans le cadre de ta question. Mon corps ne sent pas Dieu. Mon corps, c'est un animal. Mais je peux, avec l'esprit, lentement aller l'influencer qui commence à oui percevoir Dieu. Ça, c'est un grand travail. Parce que ta question, elle est haute, je dis, c'est dans le dernier niveau, d'accord ? C'est un grand travail, mais le travail numéro un qu'il faut faire, c'est au moins de la prière. Pas rentrer dans la prière comme ça, tu es dans la vie, tu cavales dans la vie, hop, tu rentres dans la prière, ça c'est très dur. Parce que tu es dans la vie qui est l'expression de ton corps, de ton cœur, d'accord ? Tu es dans la prière qui est une expression à Dieu, c'est très dur de faire le passage. La Gemara dit que les chassidim, les pieux d'antan, ils attendaient une heure avant de faire leur prière. C'est des chassidim, il y a des niveaux tzadik, tu as plus haut, c'est chassid. Donc c'était des très grands tzadikim. Ils ont eu le titre de chassid. Ils ne perdaient pas leur temps pendant une heure. Qu'est-ce qu'ils ont pendant une heure avant la prière ? Ils s'imaginaient maintenant, je vais maintenant me mettre en rapport avec Hachem. Tout ce que je suis en train de parler maintenant, le fleuve de sueur de feu qui descend, la grandeur de Dieu, comment je suis petit, comment je peux m'adresser à Hachem, moi qui suis plein de péchés, comment je me suis révolté contre Dieu. Et il me permet de parler. Mais je ne suis pas révolté contre Dieu. Je vous ai déjà expliqué que chaque jour, on dit au moins 1000 fois par jour, excusez-moi ce langage terrible, mais c'est la réalité, Dieu dégage. Dieu pardonne maintenant et tu dis, j'ai pas envie. Tu t'imagines ? Regarde les anges qui sont face à Dieu comme des anges énormes, qui font plusieurs fois le monde. Des monstres de sainteté, de grandeur extraordinaire, qui sont en crainte terrible devant Hachem. C'est un petit moustique, tordu, qui dit à Hachem, j'ai pas envie. Qu'est-ce qu'il mérite comme trecha ?
Tu m'as fait comme ça aussi, quelque part. Dans ce que vous dites, c'est presque comme si on était...
Et c'est à cause de toi. Hatsouf, insolent, chatsouf, azpanim. Aspanim en hébreu, c'est. Dans la prière, on dit Boshel Panim le Ganen, Aspanim le Gehenam. Celui qui est timide, alors il va au paradis, et celui qui est Aspanim, qui est insolent, il va en enfer. Donc, quand on trouve une histoire de Tzadikim, le Chavetz Chaim, dans sa yeshiva, à Aradin, un jour le Mashgiach, donc le responsable spirituel, vient voir et dit: j'ai deux élèves à problème. Je pense qu'il y a un des deux qu'il faut mettre dehors. Un, c'est un fainéant, il ne fait rien du tout. Il glandoue toute la journée. Je crois qu'il ne sert à rien de le garder. Il y en a un autre, lui, Baruch Hashem, il étudie comme il faut, c'est une super bombe en Torah, mais il est chatsouf, il est insolent. Je crois qu'il a besoin d'une bonne. D'une discussion du Rosh Yeshiva, comme ça qu'il le mette bien en place. Le Chavetz Chaim lui a dit: je suis entièrement pas d'accord, c'est exactement le contraire. Celui qui est fainéant, alors lui a besoin d'une bonne discussion et on va le remettre sur lui. Celui qui est insolent, comment je peux le garder à l'Yeshiva? Chazal, on dit, insolent, il va en enfer, il n'a pas place à être ici, dehors. C'est un très bon élève, insolent. Parce que c'est contraire au sens même de la vie. Toute la Torah nous dit, quand on dit Hashem Echad, Shema Yisrael Hashem Lekun Hashem Echad, on dit quoi? C'est quoi? Il est un. Il est maître de tout. Maître de tout. Et nous, dans notre petitesse orgueilleuse, d'accord, on se prend pour des dieux. Et on dit: laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. J'ai pas envie. T'as compris? J'ai pas envie. J'irai en enfer. Des gens disent: je préfère aller en enfer, plutôt je suis trop fatigué, tant pis. C'est pas des questions, c'est pas l'enfer au paradis. C'est pas ça. À qui tu t'adresses? À qui tu t'adresses? Et t'as permis de lui parler. Tu te permets comme ça de rassacher l'homme, même les pensées. Et un travail énorme. Un travail énorme. On baigne dans cet esprit de révolte contre Dieu, d'accord? Un travail de savoir être plus petit. Ça commence aussi dans la relation avec l'autre, à s'écraser. Et là, lentement, on commence à réveiller chez nous une capacité de sensibilité à Dieu. De crainte, on appelle ça la crainte de Dieu, c'est exactement ça. Alors, pas crainte, c'est pas comme les anges dont je parle, ça, c'est un niveau énorme. Une conscience de Dieu, une conscience que Dieu est là. Maintenant, le meilleur moyen, je rappelle, le meilleur moyen de travailler cela, c'est se rappeler sans cesse. Le Messati Shari me dit: le meilleur moyen d'oublier ça, c'est l'oubli. Ce sont les tirdotes, c'est-à-dire toutes les inquiétudes et occupations quotidiennes. Je dois aller faire ci, je dois aller faire ça, je dois faire ça, je ne pense plus à Dieu. Je suis happé par ce monde. Donc comment faire pour se brancher avec Dieu? Quitter ce monde. C'est cet exercice que faisaient les chassidim avant la prière pendant une heure. Ils quittaient ce monde, se préparaient. Lentement, ils oubliaient toutes les inquiétudes de ce monde. J'oublie, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, je me prépare, je me concentre pour être avec Dieu, avec mon Dieu, celui qui m'a créé, celui dont tout dépend. Et j'ai l'occasion de parler maintenant au maître, ce maître qui est tellement grand, qui est mon père, qui est le roi. Et moi, je peux, un petit moustique, m'adresser à lui, qu'elle change, et il m'écoute quand je parle. Après, quand tu fais la prière, elle a une autre tête, c'est clair. Fais pas ça une heure, c'est impossible. Fais-le une minute. C'est énorme. C'est pour ça que Chazal ont institué, avant toutes les prières, il y a toujours un peu de prière, au moins à Minra et au moins à Ashré. D'accord? Il y a toujours, avant Shachrit, il y a tout le Souket des Imra. Tout ça, ce sont des versets qui doivent nous mettre en situation de préparation pour prier. Mais qui le fait comme ça? Tu lis, tu rêves. Peut-être Shema Israël, le verset Shema Israël, tu penses un peu, après tu rêves encore, après tu commences ta Amida, on espère que tu ne rêves pas toute la Amida. Il faut tenir jusqu'à Magan Abraham sans avoir rêvé. D'accord? Et c'est pas facile. Et c'est pas facile. Donc un travail de préparation. Sans préparation, il n'y a pas de prière. Dans tout. En Torah, sans préparation, on ne peut rien recevoir. Parce que si on n'est pas préparé, c'est le corps qui réagit. Donc, que ce soit l'esprit, il faut une préparation. Et là, on peut recevoir le grand flux que peut donner la prière ou chaque mitzvah qu'on fait.
Mais pour arriver à ce niveau, il ne faut pas comprendre mot pour mot ce qu'on dit dans la prière.
Ça vaut la peine.
Sentir la trop bruyante.
Alors, prends, aujourd'hui, il y a des sidourim, je fais une pub sur Internet maintenant, sidourim de la délivrance, d'accord, où tu as, sous le mot hébreu, tu as le mot français, tu as un phonétique, bah, tu vas lentement, et moi, qu'est-ce qu'il y a de meilleur?
Oui, on a tellement peur de mal prendre ce mot, puis à la fin, on fait des répétitions sur...
Ok, alors je vais reprendre ta question. Tu dis, si vraiment maintenant on sent qu'on est devant le roi des rois, on s'adresse à lui... On a peur de dire un mot sans bien penser ce qu'on doit penser, d'avoir mal prononcé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On répète des fois le mot. La réponse est la suivante.
Prononcer orthographique.
Ouais, prononcer. Des fois, quelqu'un, tu dis, je sais pas moi, par exemple, c'est pas bien de lier les mots. Tu dis Baroucha. Baroucha. Au lieu de dire Baruch Ata, tu dis Baroucha Ta. Ou bien, toutes les liaisons. D'accord. Al-Levavecha. Itkadash Sheme. Itkadash Sheme, etc. Il y a les liaisons. Des fois, tu prononces mal. Tu dis un Ain à la place d'un Aleph, un Aleph à la place d'un Hey. Bon, il faut bien prononcer.
Mais il faut. Ça.
Alors, dans Shema Israël, il y a 248 mots. Parce que d'après Halakha, comme ça dit le Rabbi Shmuel ben Shaul, on doit prononcer, on ne peut pas répéter un mot. Dans Shema Israël, si on a mal prononcé vraiment, si le mot n'a pas été prononcé, on le répète, parce qu'on l'a pas répété, vu qu'on ne l'a pas dit la première fois, qu'on l'a mal prononcé. Mais si on l'a prononcé comme il faut, mais on n'a pas pensé ce qu'il fallait penser. On l'a prononcé comme il faut, mais pas avec tous les détails, d'accord ? Le mot, il est bien dit, mais ce n'est pas total. On ne doit pas le répéter. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il y ait 248 mots. Et si on répète, tu auras 249. À part le premier verset, « Shema Israël et Baruch Shem », parce que ça, si tu n'as pas pensé ce que tu disais, c'est tes parents du kit. Donc tu attends un moment et tu refais. Tu attends le temps d'arriver au Vicharecha, le premier paragraphe, et tu recommences depuis le début. Ça, c'est pour Shema Israël. Par contre, la Amida, écrit toujours dans le Rabbi Shaul Zatzal, il dit que tu n'as pas de problème de répéter les mots dans la Amida, à moins que tu répètes une bracha. Tu ne peux pas répéter une bracha. Baruch Ata Hashem Magen Abraham. Tu ne peux pas faire. Tu peux Baruch Ata. Baruch Ata. Ce n'est pas très bien. Le Baruch Ata des jours, ce n'est pas très bien. Mais ce qu'il y a avant. Par exemple, tu dis maintenant, El Elyon. Dieu supérieur. Tu dis, je vais encore mieux. El Elyon. Dieu supérieur. El Elyon, Dieu, c'est le nom de Dieu, mais j'ai dit Dieu supérieur. Si je dis quel tout seul, je peux pas. Mais quel Elyon, je dis ce Dieu qui est supérieur. Gomel Hasadim Tovim.
Mais c'est ça, la personne dans le même esprit. Enfin, est-ce que j'ai bien prononcé,
c'est normal. Mais être en tension de bien dire chacun des mots et le dire avec intention, c'est un travail qui s'appelle le travail de la prière. Dans Shema Israël, on dit, ou l'orvdo bechol levavrem. Orvdo signifie travailler. Travailler de tout son cœur. Chazal dit, c'est quoi le travail du cœur? La prière. Parce que c'est un travail. C'est concentration. C'est pas concentration. Il n'y a pas que penser les mots. C'est déjà très grand de penser les mots. Mais aussi prier. Je m'adresse à Hachem. Donc je me mets dans tout ce que je peux authentique en moi. Le vrai secret de la prière, c'est devenir authentique. On a chez nous, chacun de nous, il a une neshama. Neshama, c'est ce qui est sensible à la vérité. Et on vit dans le monde du mensonge. Et là, on s'arrête maintenant pour se remettre en phase avec la vérité. Donc il y a un effort maintenant de concentration, d'être vrai. Et vrai, ça veut dire que maintenant, je m'adresse à Hachem vraiment, dans la plus grande vérité qu'il puisse y avoir. Et là, je touche. Quand je veux être vrai, je touche Hachem. C'est marqué que la signature de Dieu dans le monde, son tampon, c'est la vérité. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Son tampon, c'est la vérité. Mais certainement, ça veut dire que le moyen d'accéder à lui passe par la vérité. Hachem, il est Emet. Qu'est-ce qu'il a Hachem, je ne sais pas, mais il y a chez moi cette sensibilité à la vérité. Je parle de choses très hautes maintenant. Il y a une sensibilité à la vérité que lorsque je l'utilise maintenant, je me mets en contact forcément avec Hachem. Et c'est ça dans la prière. Karov Hachem le chol koreav, tu es proche de tout ce qu'il appelle, le chol Hachem ikra, ouhu ve'emet, de tout ce qu'il appelle, be'emet, avec vérité. Là, Chazal nous a transmis, le roi David nous a transmis une clé de contact avec Dieu, appelle-le Behemet. Dieu est proche quand tu l'appelles Behemet. Behemet avec vérité.
Mais qui me tient devant ça ?
Je vais réexpliquer ce que je dis maintenant. Je dis une chose qui est profonde. On a chez nous une sensibilité au Behemet. Quand je prie à Hachem, je m'adresse maintenant Behemet. Je vais être le plus vrai possible quand je dis les mots. Quand je dis les mots, être le plus vrai. Tu peux dire le mot, penser ce que tu dis. Penser, c'est déjà pas faux, mais t'es pas dans l'émet encore. Comment te dire ? On prend l'exemple maintenant, tu dis sur Dieu maintenant, Hakel, Hagadol, Hagibor, Vanoa. D'accord ? Le Dieu grand, Gadol, Gibor, puissant, Vanoa, qui inspire la crainte. Je pense que je dis maintenant, le Dieu qui est grand, qui est fort et redoutable. Maintenant, je veux maintenant dire ça, Behemet, avec vérité, c'est quoi vérité? Ben, je m'imagine, je fais un travail maintenant, à quel Hagadol, grand, Hagadol, grand, Hagibor, c'est pas, c'est le grand, d'accord, Hagibor, le plus fort. Hanoa, qui inspire la crainte. Tu te mets dans cette situation de crainte. Ça, c'est Behemet. Après, quand tu l'implores, tu lui demandes des choses. Tu l'implores vraiment. Je peux te demander une chose. Je peux te demander en implorant. Je peux maintenant mettre toute mon intention la plus puissante, que c'est tellement important pour moi que tu entends ce que je veux, de vouloir te toucher. Je veux être le plus authentique possible. Tu fais comme ça la prière, mais tu sors quelqu'un d'autre. Ça te prend une demi-heure. Mais t'es pas le même après cette prière qu'avant la prière. Celui qui tient le coup, parce que c'est dur, c'est un travail, il y a la fainéantise, on n'a pas envie, c'est dur. Mais au bout d'un moment, ça devient un kiff. D'un côté, le corps, il n'aime pas ça, parce que c'est un effort que tu vas faire, mais tu sens, après, tu rentres déjà dans l'état de transe comme ça de prière. Le Shulchan Aruch, ce n'est pas un livre de Moussard. T'as vu, Alaha. Il écrit, c'est extraordinaire, vous verrez ça, c'est dans le chapitre 98, en Gematria Valeur Numérique, c'est le chapitre Tsar. Tsar signifie pur, d'accord. Là-bas, il parle de la pureté de la prière. Il dit que dans la prière, on doit arriver à un état, dit Pashtut Hagashmiyut. C'est quoi dit Pashtut Hagashmiyut? Où on se déshabille de la matérialité. Tu es tellement branché avec Hachem que tu n'es plus dans ce monde. Tu n'es plus là. Tu n'es plus là.
Ah. Pourquoi est-ce qu'on prône pas, est-ce qu'on ne préconise pas une fille là qui vient de nos propres mots, c'est-à-dire, là,
on préconise. On préconise.
Quand on demande, on parle.
On préconise. Simplement, celle qui vient de tes propres mots, elle vient de toi. Et toi, comme moi, comme nous tous, on est des petits. Alors ta prière, elle est bien parce qu'elle est authentique, c'est tes mots. Mais t'as pas... Je vais expliquer. Toi, maintenant, tu dis tes propres mots. C'est très bien, ça vient du cœur et c'est certain que ça a beaucoup de valeur. La prière que nous faisons, la Amida, est instituée par des prophètes. Et c'est pas seulement les mots que tu dis. C'est une échelle, c'est une fusée supersonique qui te permet de monter d'un coup très très haut. Malgré toi, je veux dire, c'est un truc magique, c'est une échelle, un levier qui te fait rien qu'en disant ces mots-là, tu fais une action extraordinaire dans les mondes supérieurs. C'était institué par des prophètes. La Kabbalah dévoile un tout petit peu de ce secret-là. Pour chacun des mots de la prière, tu as des pages, t'entends, des pages de ce que ça fait, quelle action ça fait, qu'est-ce qu'il faut penser. Des pages pour chacun des mots. T'as un bouquin entier, Shara Kavanot. Le portail des intentions. Le Rabbi Nohari, on peut dire que je ne connais pas très bien ce livre-là, mais j'imagine que trois quarts ne parlent que de la Amida. Faire une page, ça prend déjà des jours, une page d'étude de ce livre-là. Après, il faut penser toutes ces choses-là. Ce que la Kabbalah a dévoilé, c'est un millier de ce que, des vraies intentions que ça, à un point tel que Rabbi Hamid Volojin, le Ben Ishraou, s'y ramène cela, il dit que ça vaut la peine quand on prie, vu qu'on ne sait pas quelle pensée il faut avoir. Parce que la pensée, du sens simple, à quel Agadol Hagibor Anoa, le grand, puissant et redoutable. Ok, mais ça, c'est la pensée basique. Maintenant, quand tu dis ces choses-là, comme j'ai dit, ça a un effet. La Kabbalah te dire, maintenant, quand tu fais ça, il faut penser à cette sphère qui agit sur cette sphère. Le mot Gadol, c'est trois fois le nom de Dieu multiplié par son truc. Je ne sais pas, je ne m'y connais pas. C'est tous des trucs comme ça. Mais ça aussi, c'est encore très bas. Parce que le vrai sens, c'est on s'adresse à Dieu, on rentre dans la divinité. Alors, comment on peut parler à Dieu? Avec quel sens de ce que je dis? Et le seul sens qu'on peut vraiment, le seul vrai, c'est imaginer les lettres, parce que les lettres, elles sont saintes en elles-mêmes, elles correspondent à des choses très hautes. Donc, il recommande, quand on prie, de voir les lettres. Tu vois Hakel, tu vois Hey, et puis Aleph, puis Lamed. Il dit, c'est lent, mais il faut s'habituer aussi. Celui qui peut, d'accord. On parle maintenant de gens qui ne sont pas fainéants, qui veulent beaucoup investir dans la prière. Celui qui veut arriver, comme demande Dan David, à palper Dieu. C'est un grand effort, mais ça marche, c'est clair que ça marche. Alors, dans la prière, on va essayer, tout en gardant la Kabbalah, l'intention et la prière, le sentiment aussi, à voir les mots.
On les voit dans le Sidour.
Hein ?
On les voit dans le Sidour.
Dans le Sidour, c'est une façon aussi.
On se rend pas compte de tout ce qu'on dit quand je dis.
C'est vrai ?
C'est pas moi, Et Tsemar, David Abdecha.
Ouais, ouais, c'est juste.
On dit juste. Voilà, ça veut dire qu'on est des robots.
Les prophètes t'ont donné ma. Regarde.
Mais non, on ne doit pas rester stable.
C'est comme un pilote dans un avion, d'accord ? Il y a deux sortes de pilotes. T'as un, on lui a dit, voilà, tu fais comme ça, ça monte, tu fais comme ça, ça descend, gauche, droite, tu appuies sur l'accélérateur, on lui fait quelques leçons, et c'est pas compliqué. Puis t'en as un qui a appris pendant 10 ans comment un jumbo de Boeing 737 ou l'Airbus, d'accord, il connaît chaque petite vis, comment elle fonctionne. C'est autre chose. Chazal, les prophètes d'Israël, ont mis entre nos mains un Boeing, d'accord, une fusée interstellaire qui peut accéder jusqu'à Dieu. Et t'ont dit, tu fais ce que je t'ai dit, maintenant tu mets les pieds joints, tu penses que tu vas dire ces mots-là, ça marche. tu voles, tu envoles. Ça vole, c'est très bien, extraordinaire. Donc, il est clair que celui qui saura maintenant exactement, je passe maintenant de la voiture dans la stratosphère, maintenant je suis là, je suis tac, il saisit tout ce qui se passe autour, il sait ce qu'il fait, ça a plus d'impact que celui qui pilote comme ça, bêtement. Les deux font leur prière, les deux c'est valable. Celui qui est au courant du comment et du pourquoi, il aura plus d'impact que celui qui n'est pas au courant du comment et du pourquoi. Mais nous qui ne sommes pas au courant du comment et du pourquoi, on a deux choses à faire. Premièrement, on va mettre beaucoup de cœur et bien prononcer les mots avec intention. Deuxième chose, on va essayer de voir les mots parce que les lettres en elles-mêmes, c'est elles qui agissent. Donc quand tu vois les mots, tu agis. Et dans 40 ans, celui qui sera saint, pur et grand Torah pourra aussi aller commencer du la Kabbalah et commencer aussi à faire ce qu'on appelle les Kabbalot, à prier avec des intentions kabbalistiques. Oui.
Il n'y a pas un risque d'imaginer des choses qu'on dit grand, puissant et qu'on se concentre tellement? Parce que quand on dit on prie, on doit avoir conscience d'être en face de Dieu. Mais au bout d'un moment, on va arriver à avoir des images, c'est obligatoire.
Il faut les faire partir, c'est normal.
Quand on dit grand, puissant, grand, on s'imagine tous quelque chose de grand, qu'on va penser aux anges, comme vous avez dit et tout.
C'est pas interdit.
C'est pas interdit.
T'es pas une image de Dieu, image de grand.
Oui, mais de grand, on va forcément, dès qu'on dit grand, on s'imagine quelqu'un
de grand. Tu vois quelqu'un de grand.
On va imaginer même quelque chose de grand, puissant, on va imaginer de la force.
On fait un travail, comment on
peut. C'est pas mieux d'aller plus vite.
C'est mieux pas prier. Comme ça, tu vas. C'est quoi aller plus vite? Tu peux, avec pas beaucoup d'efforts, comprendre que quand tu dis grand, tu parles d'une chose qui est grande, mais tu n'as pas d'image à cela. Il faut arriver à distancer la raison et l'image. C'est vrai, il ne faut pas d'image.
Si j'imagine juste le lieu de Kevavke pendant que je prie.
Excellent.
Ah ouais?
Toute la prière?
Non, mais il faut que tu penses ce que tu dis.
Oui, non, c'est bon. Ouais, aussi,
mais tu es en face du lieu de Kevavke, c'est très très bien. C'est très bien.
Et si on imagine chaque mot qu'on dit, c'est le mieux pour ne pas avoir d'autres images. Il y a les mots du livre, en fait.
Excellent.
Comme on l'a abordé l'orthographe.
Excellent.
Il y a un petit problème blanche. Il y a un problème, quand on étudie les masses comme qui tout vote, ça c'est vraiment, on parle de femmes.
Donc la question inévitable de Mekikès, toi tu parles maintenant des pensées de Dieu, je vais voir quelque chose de grand, c'est déjà bien, tu penses à Dieu. Mais il y a qui voit des femmes, d'accord. Le meilleur moyen, c'est si on se bat pour ne pas penser à la femme, elle revient encore plus fort. Comme je dis toujours, je dis, pense pas à une banane. Quoi tu penses? Hein, pense pas à une banane. À quoi tu penses? Surtout pas à une banane. Ne pense pas à une banane. Ne pense pas à une banane. Hein? Tu penses au foot? Très bien. C'est ce qu'il faut faire. Très bien. Alors, quand la femme, maintenant, elle vient dans la prière, ne pense pas à ne pas penser à la femme.
Écoute-moi.
Quand l'image de la femme, elle vient... Ne pense pas à ne pas penser à elle, pense à la prière. Mets de côté, pense à Dieu, pense que tu te branches avec Dieu. Ça part très vite. Donc, j'ai déjà dit aussi, il y a des noms, c'est bien de voir certains noms de Dieu qu'il est bien de voir pour que les femmes partent. Alors, tu as le nom que j'ai déjà dit dernièrement ici, les lettres Gad, Shen et puis Kel. Il y a aussi Kra et puis Sat et puis Nun. D'accord, la deuxième ligne de Anabechoar. Qui signifiera déchire le sat, et puis en, d'accord, c'est pas bien de dire son nom. Kouf, resh, ain, sin, tête, et puis nun. Ce nom-là, même en rêve, si quelqu'un y rêve maintenant de femme, chassé shalom, d'accord, il imagine, il est suffisamment conscient de rêve pour penser ce nom-là, ça l'éclate en petits morceaux.
Vous pouvez répéter les derniers.
Hein?
C'est pas ça marche ou pas? Le premier que vous avez dit, la dernière fois, j'ai essayé une fois, même quand j'étais dans la rue et tout.
Si on veut penser à la fille, elle viendra. Mais si on fait une guerre, ça nous aide beaucoup. Les lettres. Gimel, Kouf. Alors, je comprends. Le premier nom, Gimel, et puis Daled, Shin, et puis Nun, et puis Aleph, et puis Lamel. Je dis, et puis entre tous, ce sont des noms saints. Le deuxième, Kouf, et puis Resh, et puis Aïn, et puis Sin, comme un Shin, mais avec le point à gauche, Tête, et Nun. Une sophite. Ok, monsieur, que Dieu nous aide à le sentir, à le ressentir, à voir sa crainte. Baruch Adonai, le Rémanou Amen.